Salut à tous et bienvenue dans Hors-jeu Capital, votre podcast PSG qui débriefe l'actu du club de la capitale avec mes deux compères du jour. Yacine Amned, comment ça va?
Salut à tous, bah ça va, merci. Et vous?
Moi ça va, moi ça va. Écoute, on est prêt pour cette échéance de Ligue des Champions mercredi. Je vais présenter quand même mon deuxième compère, Jean-Baptiste, comment tu vas?
Ça va très bien, je suis pas loin de toi, hein. On est même très très proches, Clément. Salut Yas.
Ouais, je voulais,
Salut Clément.
je vais vous expliquer le contexte un peu de cette émission. Il est assez rocambolesque. Déjà, on est trois et pas quatre, puisque Nicolas nous a plantés au dernier moment. Et je le remercie pas, et même je l'affiche parce qu'il m'a obligé à tout refaire en termes de visuel. Donc, évidemment, quand on est quatre et pas trois, ou l'inversement trois et pas quatre, et ben ça fait tout refaire. Donc voilà. Et puis je suis chez Jean-Baptiste pour une qualité de réseau qui est supérieure parce qu'il y a des travaux chez moi. Voilà, vous savez tout sur les coulisses de ce podcast. On va donner quand même le sommaire de cette émission. Alors on va évidemment revenir sur Clermont. Je vois dans le chat que certains ne veulent pas forcément beaucoup parler du match de samedi. Et ben on va quand même en parler un peu parce qu'on a des choses à dire. On va revenir un peu sur les éventuels enseignements à retenir de cette rencontre, que ce soit de la compo, des jeunes qui ont fait leur apparition, de Ramos qui est encore marqué. On va aussi revenir sur la polémique du président du Havre qui a fait parler de lui après la rencontre, puisqu'il a véhément critiqué le PSG. Je vois que Jean-Baptiste est chaud, je crois qu'Yacine est chaud aussi sur la question, puisque apparemment le PSG n'avait pas le droit de faire tourner contre Clermont à 4 jours d'un match de Ligue des Champions. On va en reparler. On parlera aussi de Luis Enrique, et pas pour des polémiques avec Mbappé et tout, mais on va parler un peu de ce que vous avez vu cette semaine avec, enfin ce week-end avec son oreillette. Vous l'avez sûrement vu, il avait une oreillette ce week-end contre Clermont. Et en fait, ça fait partie d'une stratégie un peu tactique de la part de Luis Enrique. On va en parler avec Jean-Baptiste et coach Yacine. On finira évidemment par parler du Barça, du match qui nous attend dans 2 jours et de la compo éventuelle que pourrait afficher Luis Enrique contre le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà un peu pour le sommaire. Jean-Baptiste, est-ce que tu es prêt un peu pour cette émission? Je te sens en forme là.
Ah, moi je suis chaud là. Là je suis sur le dossier roussier, je suis chaud depuis 24 heures là. Là j'en peux plus. D'ailleurs j'ai une petite pensée pour Nico qui nous manque. J'espère que son stock de Swatch et de Flic Flac qu'il est parti vendre en Lozère va lui rapporter énormément d'argent pour financer le podcast. Nico, on pense à toi.
Ouais, Nico, on pense à lui. Moi, je pense pas trop à lui parce que je suis un peu en colère après lui, mais ça va se calmer. Avant de parler de Clermont, quand même, on va vous remercier parce que vous êtes désormais 450 membres de la communauté Paris United. Ça, c'est très fort. Bon, on vous l'a annoncé plusieurs fois. Hein. On a lancé une nouvelle formule d'abonnement avec plusieurs contenus exclusifs. Ça nous permet de pérenniser un peu Paris United et en même temps de vous proposer du contenu supplémentaire de qualité en studio, des interviews, etc. 450, c'est énorme. On s'attendait pas à être aussi nombreux, donc merci. Pour tous les membres, on sera avec Alain Roche demain midi sur notre chaîne YouTube, une émission consacrée à son passé en tant que joueur du PSG. Il a gagné la Coupe d'Europe quand même avec le PSG. Et en tant que directeur sportif dans les années 2000, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Il se confie comme rarement à titre personnel. Je l'ai entendu se confier, voilà, sans langue de bois, donc c'est plutôt cool. Et on a une autre annonce aussi à vous faire qui va vous plaire, je pense, puisque chaque mois, on a décidé de tirer au sort l'un de nos membres pour participer au podcast avec nous. Donc une fois par mois, on fera un tirage au sort de l'un des membres de la communauté de Paris United. Il viendra participer à un débrief de match ou à une émission avec nous en podcast. Donc par exemple, aujourd'hui, il aurait pu tout à fait remplacer Nicolas le planteur. Donc voilà, ça aurait pu être très cool. Donc voilà, encore merci à tous. Et puis on espère atteindre la barre des 500 cette semaine avec le quart de finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est faisable. On mise sur vous. N'oubliez pas de liker, de commenter. Évidemment, il n'y a pas Mousse, mais il sait très bien le faire. Donc voilà, liker, commenter, c'est important pour le référencement. Et nous, ça nous permet aussi de vous répondre, d'interagir. Je vois que ça commence à répondre. Vous êtes déjà 180, donc c'est cool. Merci. Un lundi à 15 h, on voit que la communauté de Paris United travaille beaucoup. Ça fait plaisir. Donc voilà. Alors pour PSG Clermont, on va revenir un peu. Yass, est-ce que tu peux afficher la compo? Déjà, donc ça a fait un partout hein, avec un but de Gonzalo Ramos contre qui a répondu à Keita côté Clermontois. Une équipe du PSG, vous pouvez le voir, énormément remaniée. Je crois que c'est la première fois que le PSG sous QSI change 11 joueurs d'un match à l'autre. Donc voilà, c'est quand même c'est quand même assez énorme. Yas, une compo remaniée, bon, tu t'y attendais. Est-ce que tu as des enseignements à tirer d'un tel match? Voilà, on sait que c'est un match avec des jeunes, avec une équipe remaniée. Est-ce que toi, tu retiens, qu'est-ce que tu retiens de ce match contre Clermont?
Je retiens que Luis Enrique, dont je vais redire que j'avais un a priori négatif, bah en fait, il est en train de faire tout ce dont on a rêvé depuis des années. Ça veut dire que se servir des points d'avance que tu as en championnat pour préparer la Ligue des Champions, pour faire tourner, pour donner du temps de jeu à tout le monde, pour donner du temps de jeu aux jeunes, d'avoir de la rotation. Dans l'équipe à chaque match pour donner du temps de jeu et concerner tout le monde. Une fois que tu peux pas faire la saison invaincu, et une fois que tu peux, entre guillemets, peut-être plus battre le record de nombre de points, en fait, ta saison, j'ai pas envie de dire qu'elle est finie, c'est pas bien de dire ça. Mais évidemment qu'avec 12 points d'avance, bah, tu peux te permettre de pas balancer, mais de prendre le risque de faire beaucoup tourner, donc de manquer d'automatisme, et de faire ce qu'on appellerait une contre-performance en temps normal, mais qui n'en est pas une sur ce week-end, en fait, parce que ce match-là, encore une fois, ce soir, enfin ce lundi, aujourd'hui, ce lundi, tu as encore 10 points d'avance sur Brest. Voilà, donc écoute, c'est la compo qu'on attendait avant un match de Ligue des Champions, c'est la compo qu'on attendait d'un PSG qui a 12 points d'avance, parce que depuis 4 ans, en fait, un match contre Clermont le samedi, alors que tu joues la Ligue des Champions le mercredi, bah, on aurait eu Mbappé, Neymar, Messi devant, on aurait eu Verratti au milieu, on aurait eu Marquinhos derrière, et puis comme on l'a vécu 50 000 fois, on aurait eu deux blessés. Et puis il y aurait eu le feu, et puis on serait plein, et puis on serait là à se dire, ah ouais, mais il fallait pas les faire jouer, on a 12 points d'avance. Voilà. Il est en train de faire ce qu'on attend d'un coach du PSG, en fait. Voilà, tout simplement.
JB, quelque part, le 1 partout, il est un peu anecdotique. Tu te retrouves aujourd'hui à 2 jours du Barça avec un seul blessé à l'infirmerie, c'est Presnel Kimpembe. On peut rajouter Mukiele, hein, qui, on peut le dire, visiblement est forfait pour la rencontre, mais c'est dû à un choc au visage contre Clermont. Finalement, la gestion, on a envie de dire, elle est parfaite.
Bah, j'ai même envie de te dire que c'est une première sous QSI d'avoir un effectif complet, avec tous tes titulaires, tes remplaçants, et effectivement, en dehors de Presnel, tout le monde est là, parce que Mukiele, concrètement, il n'aurait probablement pas pris place sur le banc non plus. On est face à la meilleure configuration possible pour affronter le Barça, enfin plutôt le Disneyland FC. Et puis, je trouve que le match est aussi intéressant, ce qui nous a permis de voir d'autres joueurs qui n'auraient pas eu de temps de jeu avant. Et là, Luis Enrique, comme le disait très bien Yacine, hein, fait ce qu'on attendait des entraîneurs précédents du PSG. Il aligne les plus jeunes, il relance les autres. Et donc, on n'a pas d'excuses et on est prêt pour le match contre le Barça. C'est quand même ce qu'on attendait.
Yas, on a pu voir des petits jeunes quand même. Ouais, vas-y.
Attends, avant de parler des petits jeunes,
Ouais.
juste, je voulais revenir sur la déclat d'Enrique, parce que c'est mon moment de gloire. Je vais faire un peu d'autosatisfaction aujourd'hui. Parce que, en fait, sur les saisons précédentes, et heureusement qu'il y a les podcasts qui sont toujours en ligne, donc il y a les preuves, j'avais parlé de plusieurs choses, et notamment de la gestion de l'effectif. J'avais dit que, normalement, les coachs, en tout cas pour beaucoup, ils pensent les temps de jeu globalement sur une période. Et après, il y a les aléas qui font que, ça veut dire qu'une défaite peut te dire, bah, finalement, je vais faire jouer un peu plus que j'avais prévu un tel joueur, une blessure, une suspension, etc. Mais globalement, voilà. Et quand j'en avais parlé, souvent on me dit, ouais, c'est pas comme ça peut pas se passer comme ça. Alors je suis content parce que Luis Enrique, tu vois, que j'aimais pas finalement au début, on a l'air de repenser un peu le même football. Il en a parlé en conférence de presse vendredi. Il dit, alors, avant de préparer la saison, on analyse le calendrier. Il y a beaucoup de variables, le temps de jeu, les joueurs appelés en sélection. On ajuste en fonction de tout ça. Cette prévision est toujours adaptable, Le plus important, tout de suite, c'est de jouer et gagner encore des matchs parce qu'on n'a pas encore gagné la Ligue 1. On doit être en bonne position. Hein. Je ne veux pas que les joueurs pensent à Barcelone, mais à Clermont, bon bref, après, ça, c'est... On connaît, c'est toujours avant la Ligue des Champions, c'est compliqué. En fait, ce qu'il explique, c'est quoi ? C'est... Je vais être concret, comme ça, ça va être plus court et plus simple. Je prends Mbappé, Hernandez et Fabian Ruiz. Et je me dis, voilà, eux, sur les 5 prochains matchs, ils ont besoin de jouer l'équivalent de 3 matchs et demi. J'en prends 3 autres et je me dis la même chose. Et après, je me dis, voilà, c'est quoi les prochains matchs ? Je prépare, entre guillemets, des équipes pour les prochains matchs. Donc, je sais déjà, par exemple, que quand je suis au mois de février, je sais déjà l'équipe que je vais aligner contre Clermont si tout se déroule à peu près bien. Et s'il n'y a pas de blessés, etc. Mais malgré tout, voilà. Et une fois que j'ai toutes mes équipes pour les 7-8 prochains matchs, comme il le dit, ben en fonction des blessés, des suspendus, des temps de jeu que j'ai dû donner en plus ou en moins, et ben du coup, j'adapte mon équipe. Donc, j'avais prévu de mettre Beraldo. Ben, il est suspendu, je vais mettre Skriniar. J'avais prévu. Voilà. Et en fait, à l'arrivée, sur une dizaine de matchs, tu as des temps de jeu déjà qui concernent tous les joueurs. Mais surtout, au lieu de pousser à fond sur des joueurs qui ont sur 10 matchs, 10 fois 90 minutes, pour rien, ou pour leur stat, ou pour prendre le risque de se blesser, ce qu'on a vécu, eh ben, tu as des joueurs qui ont joué 7 matchs, 7 matchs et demi. Et c'est largement suffisant pour être dans le rythme. Voilà. Donc, je trouvais que c'était bien. Et encore une fois, ce qui est intéressant aussi dans sa réponse, c'est que quand on lui pose des questions, pas fermées avec un avis, mais qu'on lui pose des questions claires, et voilà, et ben, il répond quand même malgré tout, parce qu'il n'était pas obligé de dire ça. Donc voilà, c'était, je trouve que c'est plutôt positif comme gestion. Et ça prouve aussi que c'est parfois les questions qui l'obligent, entre guillemets, à répondre comme ça, qu'il force à répondre comme ça.
Voilà. Je soupçonne Luis Enrique d'écouter le podcast et Coach Yacine assez régulièrement. Pour te répondre, Yas, sur le fait que Luis Enrique parle foot, j'ai réécouté certaines de ses interviews, notamment accordées à PSG TV en début d'année, et franchement, il peut parler foot de manière assez approfondie et très intéressante, plus que certaines réponses en conférence de presse, donc... Là-dessus, je te rejoins particulièrement. JB, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des petits jeunes qu'on a vus, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir ? On les avait vus, je crois que Mayulu, on l'avait vu une fois en milieu de terrain.
On l'a vu deux fois.
Ouais. Ok. Et Zagre, Zagre ou Zagré, d'ailleurs, on dit Zagre ou Zagré, Yas ?
Zagré, je crois.
Zagré. En défense.
Zagré.
Zagré, c'était l'ancien.
Exactement. Ce que j'allais dire, il y a confusion là. On a senti Zagré un peu plus dans un registre de confort entre guillemets. Il a pas pris trop de risques et il est resté. Je pense qu'il a appliqué ce qu'on lui a dit de faire. Et à Mayulu, peut-être un peu plus désinhibé. Qu'est-ce que toi t'en as pensé?
Moi, j'ai bien aimé la prestation de Mayulu et j'aurais aimé que son but soit validé. Bon, bah c'est son pote Titi qui l'a empêché, mais. J'ai aimé ses prises de balle, j'ai aimé la manière dont il libérait la balle, la manière dont il la récupérait, j'ai aimé son audace aussi. Et ça, c'est intéressant de voir que sur le banc, on a des joueurs qui, parce qu'ils sont mis en condition, lorsqu'ils rentrent et lorsqu'ils sont finalement alignés, hein, parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il était titulaire, sont capables de délivrer ce type de prestation. Et ça, c'est vraiment agréable. Zagué, c'est encore autre chose, parce que son poste n'incitait pas non plus au même type de projection. Mais je l'ai trouvé saignant, je l'ai trouvé intéressant. Je trouve que dans la mentalité aussi, on ne voit pas finalement le jeune qui a tendance à rester plutôt en retrait. On les a vus littéralement faire leur match. Et on aurait pu très bien imaginer qu'ils avaient beaucoup plus d'expérience en les voyant jouer. Donc, belle gestion de Luis Enrique là encore. Et puis, quand on regarde le 11 aligné, hein, c'est quand même 7 internationaux sur les 11. Je trouve qu'ils n'ont pas fait finalement offense à l'équipe et ils ont même apporté justement du dynamisme. C'est là où on les attend. Et donc là encore, c'est une réussite.
Il y a James dans le chat qui nous dit Zagué, c'est correct, c'est déjà meilleur que Skriniar. On va en parler de, Skriniar dans quelques instants. Yas, ces deux petits jeunes, est-ce que toi tu les connaissais, bah, sûrement un peu plus que nous. Qu'est-ce que tu savais d'eux et qu'est-ce que tu as pensé de leur match?
Je vais commencer par Zagué. Zagué, c'est. Alors, déjà, bon, moi, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça. Je trouvais qu'il a été, il a fait ce qu'il avait à faire et tout. Après, je l'ai trouvé un peu, des fois, dans l'énergie pas contrôlée. Mais c'est normal pour deux raisons. La première, c'est que c'était son premier match. Et la deuxième, c'est aussi que d'habitude, il joue à droite. Et là, il s'est retrouvé à gauche. Donc, c'est. Pas pareil non plus dans ta gestion du couloir, dans ton positionnement. C'est pas tu t'orientes pas de la même façon quand tu joues à gauche, etc. Il y a des repères à trouver. Donc, c'est compliqué. Maintenant, il a pas été mauvais. Hein. C'est pas ce que je dis. Bon, il a fait son taf. Voilà. Et bon, après Paris, il y a eu aussi presque 75% de possession de balle. Donc, bon, défensivement, il était plus attendu défensivement parce qu'il pouvait pas apporter trop offensivement. Mais voilà. Sur Mayulu, bah, ça confirme ce qu'on pense de lui, parce que beaucoup, ceux qui suivent les jeunes, pensent de lui depuis plusieurs saisons. C'est un vrai bon joueur, ça sent le football. Alors, il y a une première chose intéressante, c'est que là aussi, on va revenir sur la gestion des jeunes. Bah, bien sûr que c'est plus facile, sans enlever leur mérite. Hein. C'est plus facile de rentrer dans une équipe qui a des principes de jeu et qui n'a pas comme principe de dire donner le ballon à Léo, à Ney et à Kylian, et puis débrouillez-vous, mais qui a des principes qu'il travaille à l'entraînement avec des déplacements, des courses, des positionnements, etc. Parce que déjà, bah, tu sais en fait où tu dois être, comment tu dois te situer, les courses qui sont faites, etc. Donc, c'est évidemment que ça aide. Ça aide également d'avoir 12 points d'avance et pas de rentrer dans un match où tu as 3 points d'avance et qu'il faut absolument gagner. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Mayulu, enfin, on le voit bien dans ses prises de balles et tout, que c'est un joueur qui a pas peur. Et le problème de Mayulu, enfin, le problème de Mayulu par rapport au PSG, c'est que Mayulu, il est en fin de contrat et que, y a beaucoup de clubs, notamment allemands, qui sont dessus. Que ça va être compliqué de le garder parce que c'est un joueur qui a un vrai potentiel, qui a un vrai talent. Et tu vois, quand on parlait un peu de la gestion des jeunes et de la réserve, enfin des U19 et tout, bah, c'est un joueur qui lui pâtit un peu de l'écart en fait qu'il y a au PSG, c'est-à-dire que soit tu es en U19, soit tu es chez les pros, il n'y a pas d'intermédiaire. Et comme nous, on a un club. Satellite, partenaire, ce que tu veux, mais dont tu ne te sers pas. Et ben voilà, parce que c'est typiquement le profil de joueur à qui tu dois donner un contrat de 3 ans et que tu envoies dans ton club satellite ou partenaire, je peux appeler-le comme vous voulez, et qui va aller gratter ses 30 matchs de Ligue 1, belge, portugaise, espagnole, ce que tu veux, et qui va revenir avec son bagage, avec de la confiance en plus, avec du temps de jeu professionnel. Parce que moi, j'ai vu les derniers, pour avoir vu les derniers matchs du PSG en U19, par exemple, quand il y était, je ne vais pas vous mentir, il se faisait chier. Et je peux dire que les derniers matchs des U19, si tu allais le voir, tu pouvais être à deux doigts de te dire, c'est ça, Mayulu, le joueur dont vous me parlez tout le temps. Bah ouais, c'est ça, Mayulu, parce qu'on est au mois de mars, qu'il n'y a plus de Youth League, et que ça fait 6 mois qu'il se fait chier en U19, parce que déjà l'année dernière, il jouait déjà en U19. Donc, c'est des joueurs qui ont besoin maintenant de gratter au-dessus. Et gratter au-dessus, c'est soit dans le groupe pro, comme on a vu là, maintenant il ne reste plus beaucoup de journées, soit de signer au club et d'être prêté. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le club, c'est Braga. Enfin, c'est pas un club satellite, c'est Paris à un départ dans Braga. Voilà, après, pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose, mais voilà. Donc voilà, et en plus, Braga, c'est un très bon club portugais, formateur, etc. C'est typiquement le genre de club où tu dois envoyer tes Garbi, tes Mayulu. Alors, pas toute l'équipe, hein, mais 3 ou 4 joueurs. Voilà, c'est ça le projet qui devrait être mis en place. Parce qu'à l'arrivée, Mayulu, vu comment il est suivi, ça va être compliqué quand même de le garder. Parce que si ton projet, c'est de lui dire que tu auras 12 minutes avec les pros, bon, voilà.
sachant qu'en plus, PSG devrait récupérer Xavi Simons l'année prochaine, qui viendra renforcer l'effectif. Voilà, on a vu aussi le retour d'État d'Mbappé dans le groupe. Il n'est pas rentré. Voilà, il n'était plus trop dans le groupe ces derniers temps, donc à signaler également. Avant de parler de Gonzalo Ramos, qui a encore une fois marqué, le PSG a enregistré ce week-end 27 matchs, son 27e match, pardon, sans défaite. C'est un record, je crois, Yas, depuis, je regarde, avril 94. Donc c'est quand même, voilà, c'est un record à signaler. En match officiel, 27 matchs
C'est
sans
37.
défaite. Donc 37, ok, 37, ok, bon, bah,
Ouais.
c'est encore plus haut.
Non,
Donc oui.
le record, l'ancien record.
L'ancien
Enfin, le
record, c'est
record,
37.
plutôt.
Le
Le
record, c'est
record, c'est
37,
plutôt.
et là, Paris a fait 27.
Voilà.
Ok, donc voilà, c'est quand même ça. On a été critique cette saison sur le PSG à plusieurs reprises. En tout cas, en termes de résultats, pour l'instant, c'est plutôt à la cause de Luis
Vite fait,
Enrique.
pour finir sur Clermont, justement, parce que tu soulignes ça. Et je trouve que pour une équipe qui a 12 points d'avance, qui joue que Clermont, et qui a un match important dans 3 jours, je trouve quand même que sur l'égalisation, il y a une grosse réaction de tout le banc, enfin des joueurs qui sont contents, mais les joueurs en général sur le terrain, ils sont toujours contents. Mais même le banc, qui a l'air d'exploser de cette joie de ne pas perdre ce match malgré tout. Et je trouve que ça aussi, c'est des signes qui sont positifs parce que c'est que Clermont, tu as 12 points d'avance. Il y a quand même un match beaucoup plus important mercredi. Et d'égaliser à la 86e et de voir ça, bah je trouve que dans cette saison, les signes positifs qu'on a vus sur l'état d'esprit, le collectif et tout, bah ils rejaillissent là-dessus, quoi. Quand tu vois Mukele, d'ailleurs Mukele, entre parenthèses, parce que tout le monde a dit, on en parlera vite fait après, mais ouais, son comportement, bref. Quand tu vois sa réaction sur le but avec Donnarumma, bon, voilà, tu sens quand même qu'il se passe quelque chose dans cette équipe, quoi.
Et tu as raison, Yacine, de souligner ce refus de la défaite. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment contre Rennes au Parc, mais aussi contre Newcastle. Il y a un joueur, JB, qui symbolise ce refus un peu de la défaite, je trouve, à titre personnel, c'est Gonçalo Ramos, qui encore une fois égalise en fin de match. Il l'avait déjà fait contre Rennes et dans une autre rencontre, j'ai oublié. Voilà, c'est quand même un joueur qui répond présent, qui plaît aux supporters, qui se bagarre, qui est bon devant le but, qui a vraiment l'âme d'un numéro 9. Voilà, on parlera de Barcelone tout à l'heure, mais c'est quelque part un peu le coup de cœur cette année des recrues parisiennes.
Bah, c'est un joueur qui fait plaisir déjà, c'est un joueur qui marque, c'est un joueur dont on a su tardivement qu'il avait été indisponible pour des raisons de santé à la fin de l'année, qui revient bien, qui revient fort, qui pèse littéralement, qu'on voit toujours en train de courir, de faire les efforts jusqu'à la fin du match. On sait que dans cette équipe, ça n'a pas été une constante tout le temps, donc c'est agréable de le voir sur le terrain. Et puis, c'est un joueur qui nous rappelle, je pense que ça va être la même chose pour Yass, ces attaquants assez extraordinaires des années 90-2000 qui évoluaient dans les 18 mètres, mais le plus proche possible de la ligne, et qui étaient toujours capables de cadrer un ballon, d'être là où tu les attends pas. Et c'est ce type de joueur avec une capacité athlétique supérieure que tu vois là. Moi, je suis très content de l'avoir avec nous, je suis très content de ce qu'il montre. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, bon, bah, un Portugais de plus qui compte à Paris, je pense que personne n'est surpris.
C'est vrai que on le dit pas assez, mais la fiabilité des joueurs portugais, je trouve, est assez importante. On le voit au PSG, mais aussi globalement, enfin, ceux qui arrivent et ceux qu'on peut voir. On a encore vu Bruno Fernandes ce week-end mettre un but de folie. Au PSG, on connaît Danilo, on connaît Vitinha. Il y a une valeur travail, j'ai l'impression, dans ces joueurs portugais, et une fiabilité en termes de performance qui est assez remarquable et qui est à souligner. Je pense qu'ils ont une belle génération à venir devant eux, les Portugais. Il y a aussi eu quelques bémols. On est obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler parce que dans le chat, visiblement, ça titille certains. Milan Skriniar, qui a encore un peu fait preuve de fébrilité en défense. J'ai aussi envie qu'on parle d'Ugarte un peu, que j'ai trouvé décevant contre Clermont. J'avais trouvé un peu mieux à certaines rencontres récemment, et là, je trouve qu'il a vraiment fait une contre-performance. Il y a ces deux bémols, peut-être deux joueurs qui sont dans le creux de la vague en ce moment, et qui ont des difficultés un peu dans cette équipe.
Ouais, je pense que il y a plusieurs choses. Skriniar, malheureusement, et avec Nico, on en avait parlé depuis longtemps, avant qu'il signe, Les gens veulent pas comprendre. Tu sais, parce que j'ai encore eu ce débat ce week-end avec. Mais quand même, il était à l'Inter. Il a été élu meilleur défenseur de Serie A, etc. Encore une fois, je vais réexpliquer qu'il y a un contexte, il y a un système de jeu, il y a des choses qui étaient mises en place, il y a les joueurs qui sont autour de toi. Skriniar, il ne correspond pas à ce PSG qui joue plutôt haut, qui veut le ballon, etc. Voilà. Si c'était une équipe, tu vois, Skriniar, à la limite, avec Galtier, ça aurait été parfait. Voilà, c'est le joueur pour Galtier. Bloc bas, des fois on passe à 3. Voilà, c'est tout. Donc, écoute, si vous voulez pas comprendre ça, parce que je me rappelle quand même que quand je l'ai dit, on m'a dit, oh, toi, tu regardes pas les matchs. Non, mais effectivement, c'est vrai, je regarde pas les matchs. Bon, j'espère que maintenant, vous les regardez, par contre. Ce sera pas mal. Mais voilà, ça, c'est la première chose. Ugarte, c'est pareil. Heureusement quand même que, alors justement, je regarde les matchs et que je donne pas des avis comme ça. Parce que Ugarte, je l'avais dit en septembre, et même quand il était en sur-régime, j'avais dit attention à la jurisprudence gay et le sur-régime au début. Et je suis reparti hier voir les stats parce que j'ai eu aussi cette discussion. On me disait ouais, mais en début de saison, etc. Et en fait, je suis retourné voir les stats. Et ce qui s'est passé en début de saison, c'est que le PSG avait moins de possession de balle. Et c'est parce que c'est logique, puisque Enrique venait d'arriver, Lucien Enrique plutôt, venait d'arriver. Et surtout, Ugarte, pour un milieu de terrain, il touchait en moyenne entre 42 et 46 ballons. Vous vous rendez compte qu'on est passé de Verratti, qui était à 120, 130, Vitinha, qui est aujourd'hui à une centaine, à Ugarte, qui est entre 40 et 45. Donc, enfin 42-46. Donc en fait, il était bon parce qu'à ce moment-là, ce PSG-là avait besoin d'un mec qui court, qui met des tacs, qui compense. Mais moi, j'avais déjà dit à l'époque que, en termes de football, pour moi, ça ne pouvait pas correspondre à ce que veut Luis Enrique. Techniquement, c'est un joueur très limité. C'est un joueur qui ne sait pas faire mal avec la passe. C'est un joueur qui ne sait pas faire mal avec la percussion balle au pied. C'est un joueur qui prend très peu de risques. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en début de saison, quand l'équipe n'est pas encore en place, bah, on le voit beaucoup parce que lui, il court, il compense. Et il joue très simple, à côté de lui. Mais à ce moment-là, on part de tellement loin. On croit... Rappelez-vous hein, quand même, parce que les deux premiers matchs de la saison, ils sont horribles en vrai. Quand tu reviens en arrière, il y a un état d'esprit. D'ailleurs, je me rappelle très bien parce que tout le monde avait souligné l'état d'esprit. On voyait des joueurs courir, mais il n'y avait rien d'autre en fait. On était juste content de voir des mecs courir, quoi. Et voilà, en fait, pour moi, il n'y a aucune surprise de ce qui se passe. Maintenant, je redis, tout peut arriver dans le foot, c'est-à-dire que Ugarte peut très bien progresser, prendre confiance, etc. Je n'ai pas de problème avec ça, parce qu'il y a aussi une jurisprudence Matuidi qui s'applique là-dessus. Voilà, Matuidi, quand il arrive, que ce soit Ancelotti, Comboiré au début un peu moins, mais Ancelotti au début, etc., tout le monde le voit comme remplaçant. Et d'ailleurs, Ancelotti, pour lui, c'est même Bodmer qui est devant Matuidi. Mmh. Et finalement, Matuidi, parce que Bodmer, c'est un vrai joueur de foot. Mmh. Et finalement, Matuidi, il progresse et il se rend indispensable tous les ans. Rien n'empêchera Ugarte de le devenir. Voilà. Mon avis, c'est que j'y crois pas. Voilà,
mais en petit point positif, quand même, pour atténuer ça, Yass, les deux, au moins, ont un très bon état d'esprit. Et on a souvent parlé de problèmes de groupe au PSG ces dernières années, des remplaçants qui peuvent foutre le bordel. Voilà. Eux, au moins, on sait que là-dessus, on peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en tenir rigueur.
Mais d'ailleurs, tu parles d'état d'esprit, mais juste, je finis sur Gonzalo Ramos. Lui aussi, dans l'état d'esprit, parce que on le voit devant le but, etc. Mais à chaque perte de balle, le mec, il travaille. Il gêne la relance, il revient faire. Alors, c'est pas Cavani, il va pas faire des courses de 45 mètres pour revenir défendre. Mais il fait ses courses de 10-15 mètres pour gêner une relance, pour aller fermer un angle de passe. Voilà, et tous ces petits trucs-là, c'est important dans l'animation défensive du PSG.
Il y a Jamy Yo-Yo dans le chat qui nous dit que Skriniar, c'est notre Lugano 2.0. c'est vrai, mais Lugano, c'est une légende du foot quand même. En Uruguay, c'est un
ah ouais, bon capitaine. Ah ouais, c'est clair. Et même Fenerbahçe.
À Fenerbahçe, ouais, ce que j'allais dire. C'est au PSG, ça l'a pas fait. Je salue aussi Arnaud Benet qui est dans le chat, qui nous écoute, et je le salue d'autant plus que ça a été notre premier abonné. Donc Arnaud Benet, on t'embrasse. Merci d'avoir été présent si vite.
Ah, génial.
De quoi?
À jamais le premier.
J'avais le premier, là, je suis le deuxième, Jean-Baptiste, donc c'est pour ça que je me permets de le dire.
Suis pas encore abonné, moi.
T'es pas encore abonné. On te filera un accès si tu veux. JB, peut-être ton avis sur Skriniar, Ugarte et d'autres performances individuelles qui voilà ont un peu déçu. Voilà, on savait que c'était pas les titulaires qui joueraient contre Clermont. Bon, voilà, certains joueurs sont un peu plus limités que d'autres. On le voit en ce moment, quoi.
Bon, pour Skriniar, honnêtement, c'est un choix. On savait qu'il était limité en arrivant. Et puis, on oublie peut-être un peu rapidement sa blessure au dos, hein, qui l'a immobilisé longtemps, et la blessure qu'il a eue en janvier dernier, où il a été opéré finalement de la cheville. Et pour un joueur de cet âge-là, avec ce type de jeu-là, c'est aussi normal qu'il ait les problèmes de mobilité qu'il a aujourd'hui. On rappelle qu'il a quand même été opéré après le Trophée des Champions, justement à Doha. Ça fait partie des éléments à considérer. Après, ce sera jamais un de nos titulaires, hein. Mais il fera le job sur les matchs comme cela. J'espère qu'il ne sera pas aligné comme titulaire contre le Barça, parce qu'à mon avis, ce sera une autre histoire. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et bon, bah, on croise les doigts pour que ça aille pas plus loin et qu'il soit pas plus mauvais qu'il ne l'a été. Pour Ugarte, il est jeune, il a quoi, 23 ans?
Ouais, 24, je crois. 23, 24.
23, bon. C'est un joueur qui est limité. On pensait qu'il irait plus haut. Pour l'instant, ça plafonne. Après, moi, je suis comme Yacine, hein, je peux espérer que le meilleur pour ce joueur-là. Mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est une vraie limitation. Et je vois qu'on a un nouvel abonné qui vient de souscrire.
Ouais.
Bougzi.
C'est sympa, ça, on reçoit les notifs en direct.
Génial. Alors, par contre, les gars, moi, je dois vous dire une chose, hein. Il n'y a pas assez de likes là. Là, on est 461 et je vois trop peu de likes. Donc, les gars, on like juste pour montrer à Nico que son absence n'est pas rédhibitoire. D'accord? Il faut qu'on montre à Nico qu'aller vendre des swatchs en Lozère, c'est pas forcément c'est pas une bonne justification.
Raison.
Moi, il y en a un qui m'a déçu pour le match contre Clermont, c'est Kolo Muani. Je m'attendais à plus, je m'attendais à davantage et il démontre encore une fois qu'il n'est pas. Il n'est pas dans le rythme, il n'est pas dans le tempo, il n'a pas la capacité à faire la différence qu'on attend d'un joueur qui a été payé finalement autant que Ramos. Et la vraie déception, moi, sur ce match-là, c'est plutôt lui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yacine, toi.
Ah, je pense que lui, il est. Non, mais en fait, le truc, c'est que. Plus je l'avais expliqué en septembre que. Il correspondait pas. En fait, lui, c'est un joueur. Déjà, c'est compliqué son poste parce que personne ne sait si c'est un avant-centre ou si c'est un attaquant côté droit. Moi, je pense qu'à droite, il est mieux parce que comme il a la ligne de touche, ça lui donne un repère. C'est mieux structuré quand il est à droite. Il a moins à réfléchir, malheureusement, sur ses déplacements. Sa saison en Allemagne, je suis désolé, je vais encore être dur, mais le championnat allemand, c'est un championnat pour les attaquants, c'est un championnat, il n'y a pas de défense, c'est un championnat qui a misé. Et quand je dis ça, tu sais, souvent les gens prennent mal et tout, mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est un choix des Allemands de donner cette étiquette à leur championnat. Un championnat où on marque des buts, où il y a du spectacle. C'est pas pour rien que le championnat allemand est en Europe le plus haut taux de remplissage de stades. Et d'ailleurs, tu vas en Bundesliga 2, on est à 29 000 personnes de moyenne en Bundesliga 2. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont décidé que le football, c'était pas d'abord défensif, c'était de marquer plus de buts que l'adversaire. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de match fermé et tout, mais globalement, sur tes 34 journées, il y a, allez, entre 26 et 30 matchs où c'est complètement ouvert. Donc, c'est un championnat pour les attaquants. Et ça correspond aux qualités de Kolo Muani, comme ça correspondait aux qualités de Anthony Modeste, comme ça. Voilà, il y a plein d'attaquants français qui ont brillé en Allemagne et ce n'était pas des grands joueurs. C'est juste que c'est un championnat qui permet aux attaquants de briller. Maintenant, Kolo Muani, je pense qu'en dehors de ses lacunes, le vrai problème, c'est que, encore une fois, je ne suis pas un grand analyste du body language, mais quand même, on voit qu'il se passe quelque chose. Il a même pas l'air heureux sur le terrain. Il n'est pas épanoui, je trouve on a l'impression qu'il fait la gueule tout le temps. Alors, c'est peut-être dur, il n'y a pas de problème. Et en plus, en ce moment, on est dans une ouverture d'esprit, de débat sur justement la santé mentale des sportifs de haut niveau, etc. Donc, encore une fois, moi, enfin, en plus, ceux qui suivent ici, ils savent que moi, j'ai souvent parlé des préparateurs mentaux qui manquent dans le football parce qu'on a 20 ans de retard sur les autres sports là-dedans. Mais donc c'est pas une critique envers lui, ça arrive. Mais on voit bien quand même qu'il se passe quelque chose en dehors de son football. Tu peux pas passer de 25 buts à Francfort et ta finale de Coupe du Monde, même si sa finale de Coupe du Monde, pour moi, elle est pas surévaluée par rapport à la prestation, mais c'est un truc éphémère, quoi. C'est quelque chose d'exceptionnel. À ce que tu produis là, à ne jamais sourire, à ne jamais être heureux. Voilà, tu as l'impression qu'il est en train de traverser la saison. Ouais, pas comme un fantôme, mais presque, quoi. Et peut-être aussi que le prix de son transfert, il ajoute à tout ça. Parce que, encore une fois, comme on le dit souvent, même si c'est le joueur, il n'est pas responsable des 90 millions qu'a mis Paris. Mais malgré tout, ça pèse dans ta tête. J'ai coûté 90, je suis pas rentable, je suis pas compétitif, je marque pas de but. Quand j'ai des occasions, j'arrive pas à les mettre. Bref, tu te fais défoncer sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, tout ça pèse. Donc, voilà, malheureusement, c'est très, très compliqué pour lui.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Elie Wahi à Lens qui a du mal à assumer un gros transfert et qui peut-être faut lui laisser une deuxième saison dans une autre équipe, dans un autre groupe, sans Kylian Mbappé devant qui prend de la place, hein, faut le dire aussi, hein. Voilà, peut-être qu'il y a ce genre de choses à attendre par rapport à l'année prochaine. Est-ce qu'on a fait le tour
Peut-être
sur le
aussi
transfert?
juste, tu vois, le fait d'avoir 5 ou 6 attaquants avec la polyvalence que demande Luis Enrique. Et finalement, d'être tout le temps un peu sur la sellette, parce que le début de saison, en dehors de du virus de Ramos, c'est un peu ça. Ça veut dire que Ramos joue un match, bon, c'était limite, puis le match suivant, c'était Kolo Muani, puis le match suivant, c'était Ramos, puis le match suivant, c'était Kolo Muani, puis Kolo Muani, il joue à gauche, puis Kolo Muani, il joue à droite. Donc en fait, peut-être qu'au bout d'un moment, ça aussi, ça pèse. C'est-à-dire que tu peux pas avoir la sérénité nécessaire. Alors, tu as du temps de jeu, malgré tout, globalement. Mais en fait, t'as peut-être pas. Lui a peut-être besoin, lui, de sérénité. Genre, on lui dit, en gros, près, je vais caricaturer, mais bon, voilà, quoi qu'il arrive, les 5 prochains matchs, t'es titulaire. Voilà. Que tu sois bon, pas bon, que tu peux. Les 5 prochains matchs, ils sont pour toi. Et après, on voit. Tu vois, peut-être que lui a besoin de ça.
Effectivement, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir ces prochaines semaines. On a fait le tour sur le match en lui-même, je pense. Yass, tu voulais parler d'autre chose et Jean-Baptiste, je vais t'interroger aussi dessus. C'est les banderoles qui ont fait beaucoup parler au sein du virage Auteuil. Alors effectivement, en marge de PSG Clermont, les supporters, les ultras du virage Auteuil ont manifesté leur attachement, leur engouement à l'égard de Nasser, de Campos et de Luis Enrique. Voilà, je crois que c'était président Nasser, monsieur Campos, coach Luis Enrique, vous nous rendez fiers, ou voilà, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et puis il y a eu aussi quelques critiques envers Antero Henrique. Alors en général, les banderoles, c'est souvent soit pour chambrer l'adversaire, soit pour critiquer. Là, c'est positif. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, Jean-Baptiste, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que toi, tu as pu en penser?
Bah, pour avoir connu le PSG avec des banderoles qui étaient autrement plus critiquées, voire critiquables, hein, tout le monde se souvient de certaines banderoles dont on taira les noms, j'ai été assez surpris de voir quelque chose d'aussi positif. On avait presque l'impression que c'était une banderole officielle validée par le club. On avait plutôt l'impression que les ultras étaient utilisés là, ou en tout cas à la tribune Auteuil, pour pousser une autre idée, c'est-à-dire prendre position dans une sorte de lutte picrocholine entre Luis Enrique. Luis Campos et Antero Henrique, c'est-à-dire en gros mêler les supporters à un conflit d'appareil, hein, c'est-à-dire entre deux périmètres, l'ancien directeur sportif et puis celui qui était sous contrat avant avec le Stade Bilbao, à savoir Campos. On est sur des luttes de pouvoir. Je suis assez surpris que les ultras se soient mêlés de ça. Alors est-ce que c'est pour prendre position parce que ils ont des convictions? Est-ce que c'est pour aller dans le sens de la direction ou d'autres acteurs? Mais en tout cas, ça m'interroge parce que ce n'est pas des pratiques communes au parc. On n'est pas comme finalement dans les années 90 ou les années 2000, où on était plus à attaquer qu'à valoriser. Si on fait le parallèle avec ce qu'on a pu voir à Marseille, je trouve que la culture ultra, là, en tout cas la manière dont les ultras utilisent les banderoles, est un peu détournée. Alors, je peux me tromper, hein. Mais en tout cas, moi, ça m'a surpris et j'ai pas compris.
Yass, avant de te lancer, voilà, on vous dit aussi, on décorrèle ça de l'ambiance en général. Si on critique certaines banderoles, ça ne veut pas dire qu'on critique l'ambiance. Au contraire, voilà, on sait que là, il y a une mobilisation en vue de mercredi. Les ultras ont fait un communiqué pour appeler tout le parc à arriver très tôt au parc en tenue Echter pour soutenir Barcelone. voilà, il y a des très bonnes ambiances au parc cette année. Mais c'est vrai que je pense que même au sein du club, hein, il doit y avoir des dissensions, tout le monde ne doit pas être d'accord. Yass, toi, ton avis sur ces banderoles qui ont fait réagir, je vois dans le chat, beaucoup de gens n'ont pas compris. Hein.
Alors, je relis la banderole exacte, c'était « Président Nasser, Monsieur Campos et coach Enrique, un trio qui met le PSG à l'honneur. » Bon, déjà, quand j'ai vu cette banderole, je ne vais pas mentir, c'était Malaise TV. Je n'ai pas compris. Voilà, non, mais je suis désolé, mais en fait, quand tu as connu le parc, moi, j'ai pratiquement jamais vu au parc des banderoles de soutien à la direction parce que, en fait, la direction, normalement, c'est juste normal de bien travailler. Donc, en fait, il y a des banderoles quand tu n'es pas content ou quand il se passe des choses. Des banderoles de soutien, on n'a jamais vu ça. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Donc, pratiquement jamais, en tout cas, moi, de mémoire comme ça, j'arrive pas à me rappeler. Ouais, la deuxième chose, c'est qu'en fait, à la limite, parce que ça a été dit, c'est depuis 48 heures, à la limite, qu'ils aient eu envie de montrer un soutien, de montrer qu'ils sont contents de ce qui se passe cette saison, pourquoi pas? Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est les deux banderoles qui suivent. Le seul Enrique qu'on veut au PSG, c'est Luis. Antero Enrique, le cancer du PSG. En fait, à partir du moment où il y a ces deux banderoles-là, la première, elle fait partie d'un trio. Et à ce moment-là, pour moi, elle est plus crédible du tout. Voilà. C'est une arnaque. C'est du foutage de gueule. Voilà. S'il n'y avait pas eu les banderoles sur Antero, encore une fois, je le redis, pas de problème. Vous avez le droit de dire, on est finalement content, enfin, d'avoir un président, un directeur sportif, un entraîneur qui travaillent ensemble, etc. Mais à partir du moment où tu parles d'Antero Henrique, trois jours après ou deux jours après que Jérôme Roten se soit servi de son émission pour expliquer qu'Antero Henrique, c'était de la merde, qu'il voulait défoncer Luis Campos, qu'il voulait prendre sa place, qu'il n'était pas content, etc. Mais en fait, à partir du moment où tout ça dans ce contexte-là se passe, en fait, c'est fini, la crédibilité est terminée. Les banderoles, c'est une commande. Et racontez pas d'histoire sur l'histoire du collectif, de soutenir le club. Tout ça, c'est des conneries. Voilà. Encore une fois, moi, j'ai pas de problème. Le CUP fait un truc exceptionnel déjà pour avoir remis de l'ambiance au parc, parce que ceux qui ont vécu l'avant 2016, on avait envie de s'ouvrir les veines. En déplacement, ils sont exceptionnels. Il n'y a pas de problème. Tout ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a quand même, pour moi, des choses un peu trop politiques derrière ça. En tout cas, certains qui arrivent à amener leur message jusqu'à la tribune, c'est un peu trop politique. Et quand tu as connu les tribunes des années 80-90, c'est un choc. Et là, je pense que malheureusement, cette banderole, déjà, elle fait pas l'unanimité, ça c'est sûr. Mais je pense surtout qu'elle avait rien à faire. Enfin, les trois banderoles, elles avaient rien à faire là. En fait. À la limite, tu sais quoi, le soutien au coach? Parce que comme je le dis, on est content de ce qui se passe. Tu as le droit aussi de le dire, on n'est pas obligé tout le temps que de gueuler. Maintenant, le soutien à la direction et le tac, là, Antero Henrique, qui n'est plus là quand même depuis, enfin, qui n'est plus officiellement au club et qui n'est plus là depuis un an, bon, je trouve ça très, très bizarre. Voilà.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce volet des ultras. On voulait vous en toucher un mot parce qu'on avait vu que ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On nous a demandé d'en parler et voilà, on souhaitait aussi en toucher un mot. On en vient à l'autre gros dossier de ce PSG Clermont. J'allais dire PSG Le Havre, tu vois, j'ai failli me planter. PSG Le Havre, c'est dans 15 jours et il aurait mieux fait de s'abstenir, je pense. On en parlera. On s'en serait bien passé de celle-là, mais à l'issue de la rencontre, le président du Havre a fait plusieurs déclarations. Hier, je crois que je les ai mis dans le visuel. Je vais vous les lire. Alors voilà, c'est de se foutre de la gueule du monde. Je me suis fendu d'un texto à la Ligue pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du championnat de France. Apparemment, tout ça est validé par beaucoup de monde. Voilà, il reproche au PSG, en gros, le président du Havre. On rappelle le Havre qui joue le maintien et Clermont aussi qui joue le maintien. D'avoir fait tourner, beaucoup tourner, et de fausser, entre guillemets, la lutte pour le maintien. Le problème du président du Havre, c'est qu'il a récidivé hier sur RMC. En cas de demi-finale du Ligue des Champions, il y a la possibilité que la Ligue redécale un match, à savoir PSG-Le Havre, pour alléger les calendriers. Parenthèse, ça se fait beaucoup en Angleterre, hein, en ce moment, d'alléger les calendriers. Nous, apparemment, ça pose problème. Alors, je lis sa déclaration que vous avez sous les yeux. Je dis non tout de suite. Il n'en est pas question. Si le conseil d'administration décide, il laisse juste le choix d'aller devant un tribunal tout de suite. Il y aura tous les recours et croyez-moi que j'épuiserai tous les recours. S'il faut qu'il y ait une équipe de moins de 17 ans comme à l'époque. Donc là, il fait référence à l'époque du PSG-OM où la réserve était venue, je crois. Il y aura une équipe de U17. Donc déjà, il n'est pas très neutre pour un ancien président de l'OM. J'ai beaucoup de respect pour le PSG, un grand respect pour Luis Enrique. Croyez-moi, c'est sincère, mais je ne peux pas accepter que le PSG décide seul de l'issue du championnat pour les mal classés. Paris va être un très beau champion. Jean-Baptiste, je crois que tu es très chaud sur le sujet. Ça t'a
Ah ouais.
passablement agacé. Je t'écoute.
Alors, moi, je ne vais pas parler du sportif, on va regarder du point de vue institutionnel. D'abord, on est donc sur un président d'un club qui lutte pour son maintien, mais qui finalement parle d'un autre club. On rappelle juste qu'en termes de gentleman agreement, il faut éviter ce genre de choses, qu'on se respecte les uns les autres, hein, puisqu'on est dans la même ligue. Là, ce que c'est littéralement faire ce qu'on appelle une Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire ce qui se passait dans les années 2010, à savoir mettre la pression sur la ligue et sur un adversaire, en tout cas sur un concurrent, pour que derrière, l'attention médiatique se retourne sur lui et qu'il soit obligé finalement de jouer le jeu jusqu'au bout. Alors du point de vue de l'éthique, c'est quand même discutable. La deuxième chose, c'est qu'on est à la limite aussi de la théorie du complot, parce que la fin de sa première déclaration est assez intéressante de ce point de vue. Quand il dit que ça arrange beaucoup de monde, on a l'impression qu'il y a une sorte de conspiration pro PSG. Or, quand on regarde le match contre Clermont, on a quand même 7 internationaux sur les 11. Un vrai match qui est disputé, avec l'entrée finalement de titulaire, à commencer par Mbappé sur la fin du match. Donc déjà, du point de vue sportif, moi j'ai du mal à comprendre sa déclaration. Après, que son équipe soit incapable de battre Lens alors qu'ils ont fait un bon match et que la seule déclaration qui va rester, c'est la sienne, tant mieux pour lui. Mais moi, ça me pose un vrai problème parce que on sait aussi que Roussier, c'est d'abord l'ancien président de l'OM, celui qui a repris le club, hein, au moment où le club était en Ligue 2. C'est lui aussi qui a fait partie des aventures C'est Foot, Onzeo, mais aussi Mediapro. Donc c'est quelqu'un qui, avant de reprendre le Havre, a aussi essayé de reprendre les Verts. On est quand même sur un profil de personne qui connaît le fonctionnement de la Ligue et qui sait pertinemment ce qu'il fait. Ce n'est pas une colère comme ça qu'aurait été expédiée. C'est derrière essayer de prendre les médias et les gens finalement à témoin pour mettre la pression sur le club et dans une certaine mesure de se dédouaner finalement des performances sportives. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que d'abord, on lui donne une tribune. Et puis même ses collègues, ça les a gênés. Quand on voit, par exemple, ce que dit l'entraîneur de Clermont, il est assez clair. Hein. Il a expliqué que c'était des paroles qui n'avaient pas de sens. C'était des réflexions qui ne ressemblent à rien, pour reprendre ses mots exactement. Et là, ce qu'on voit ici, c'est quand même un mode de fonctionnement qui ne correspond pas à une ligue moderne, qui ne correspond pas à ce qu'on peut attendre finalement d'une compétition qui est justement équitable. Parce que pourrait dire Clermont? C'est aussi intéressant de penser ça. Et moi, ce qui me gêne encore plus derrière ça, c'est quand on voit ce que le PSG apporte à la Ligue 1, quand on voit les attentes en termes de parcours européens, le discours de Roussier, il n'a pas de sens, il est décalé dans le temps, c'est un discours des années 2000, voire 2010 et encore, je suis gentil, c'est un discours de boomer, et il s'est fait clasher dans tous les sens. Et encore une fois, ça va se retourner contre le Havre parce que ça ajoute une pression supplémentaire sur leur équipe, sur un entraîneur qui fait le job avec un effectif dont on sait qu'il est inférieur et une équipe qui vraiment se mérite d'être suivie. Mais là, son président, il est à côté de tout. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte qu'on joue ce match dans 15 jours en espérant pouvoir lui mettre la plus grosse équipe en face et qu'on lui explique sur le terrain la différence de point de vue et ce que c'est que le respect.
C'est dommage hein, ces déclarations aussi parce que on sait que le directeur sportif du Havre c'est Mathieu Bodmer qui est un amoureux du PSG, même un fada du PSG, donc je pense que voilà c'est aussi regrettable. Ça aurait pu presque être un club ami entre guillemets grâce à Bodmer. En plus le PSG, Luis Enrique a fait rentrer Mbappé, a fait rentrer du lourd en fin de rencontre pour essayer d'aller à égaliser. Donc on peut pas dire que le match a été saboté à 100%. Il a même pas été saboté tout court d'ailleurs puisque c'est un turnover logique, tu l'as expliqué en première partie. Comment justifier une telle déclaration et quelque part c'est comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est presque hors sol de sortir de tels propos quand on connaît un peu le contexte global.
Ouais, enfin quand tu es un ancien président de l'OM, qu'est-ce qu'on attend d'un ancien président de l'OM déjà pour commencer? Je pense tout simplement que ça permet de se dédouaner de ta saison. Bon, je rappelle quand même que le Havre va avoir à la fin, donc 34 journées multipliées par 3 points. D'accord ? Donc, à un moment donné, les 3 points du PSG contre Clermont, et en plus, il n'y a eu qu'un point, c'est pas ça qui fait la différence si tu te maintiens ou pas, quand tu n'es pas capable toi-même de battre Clermont déjà, pour commencer. Donc, parce qu'il y a quelques semaines, tu as joué Clermont, tu ne les as pas battus. Donc, je pense que le mieux, c'est quand même de te la fermer. La deuxième chose, c'est que le calendrier. Alors, moi, j'ai aucun problème avec le calendrier. Moi, je dis juste que, de toute façon, on a l'habitude avec, en France, avec des calendriers qui sont mal gérés parce qu'on se dit que, de toute façon, on n'ira pas en Ligue des Champions là, on n'ira pas en Coupe d'Europe là. Alors, à partir des quarts, c'est bon, vous pouvez mettre une finale de Coupe de France. De toute façon, on n'est jamais en quart de finale. Et puis, l'année où tu es en quart, bah, comme par hasard, l'équipe qui est en quart, elle est aussi en finale de Coupe de France. Donc, tu es en train de te battre pour décaler des calendriers, etc. Parce qu'on ne sait pas gérer, on n'a jamais su gérer. Donc, ça, c'est pas un problème. Maintenant, le match, il est là. Il y a une règle, malgré tout. Et c'est le seul point sur lequel je vais être d'accord avec le président du Havre. Il y a une règle. Les deux dernières journées, elles doivent être jouées tout en même temps. D'accord ? Sauf cas exceptionnel. C'est-à-dire que un match très important, mais qui opposerait en championnat deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Ce n'est pas le cas du Havre. Ce ne sera peut-être pas le cas du PSG d'ici fin avril. Donc, à partir du moment où il y a quelque chose à jouer, tu ne peux pas changer le calendrier. Maintenant, sur l'histoire de... Alors, en plus, il écrit que de la merde. Alors, je ne sais pas s'il se prend pour un mec intelligent, mais il écrit que de la merde. Parce qu'il n'est pas content que le PSG mette la réserve, enfin l'équipe B. Je rappelle au cas où que le PSG n'a pas fait que des victoires. Donc, avec l'équipe A, entre guillemets, elle a aussi fait des matchs nuls et des bons matchs nuls bien éclatés. Que l'équipe A, qui aurait joué contre Clermont, avant un match de Ligue des Champions, personne n'a la certitude qu'ils auraient tout donné en se disant bah, « je ne veux pas me blesser ». Donc, deuxième connerie. Troisième connerie, il n'est pas content parce que du coup, bah, c'est Clermont qui prend des points. Par contre, il est prêt à envoyer les U17. Mais t'es un débile ou quoi ? Non, mais sans déconner. Ça veut dire que tu ne veux pas prendre les points ? Si tu envoies les U17, c'est que tu balances ton match.
Non, Yass, je crois que, alors, si je lis bien la déclaration, il dit s'il faut qu'il y ait une équipe de moins de 17 ans comme à l'époque, il y aura une équipe de 17. Je pense qu'il parle du PSG. Oui.
Non.
Je pense qu'il parle du...
Ah non.
La ref, elle n'est pas claire. Elle est pas claire.
Il parle du Havre. Genre, en gros, si vous déplacez le match et que vous foutez de notre gueule, on enverra les U17.
Ah oui, donc il est loué, c'est complètement.
Le PSG n'a pas envoyé de U17 dans l'histoire du match. Et en plus, ça n'avait rien à voir parce que c'était une histoire de déplacement de supporters et tout. Bon, bref. Bon, en tout cas, il dit que de la merde. De bout en bout, il dit que de la merde. Et je rappelle une dernière chose, parce que JB a parlé du club et tout, mais juste. Les joueurs qui étaient sur le terrain ont tous des contrats professionnels. D'accord ? Deux, un entraîneur, il a le droit de faire jouer qui veut. Trois, c'est quoi la différence entre un PSG qui met des remplaçants sur ce match-là contre Clermont avec un PSG qui serait champion, qui serait éliminé de la Ligue des Champions et qui ne jouerait plus rien sur un dernier match ou une des deux dernières journées de fin de saison, ce qu'on a vécu 50 000 fois depuis 10 ans, à savoir que le PSG perdait des matchs contre des équipes horribles, mal classées, parce que le PSG n'avait plus rien à foutre, parce qu'il avait 23 points d'avance. Donc, soit tu te plains de tout, soit tu te plains de rien. Moi, je vais te conseiller un truc, c'est de la fermer une fois pour toutes, t'occuper de ton club, de ton équipe qui n'a pas pris 5 points sur les 10 derniers matchs, te la fermer, voilà. Et puis, si tu dois descendre, c'est que tu n'as pas pris le nombre de points, donc tu descends et tu fais comme tout le monde, tu te remets au travail. Par contre, vraiment, occupe-toi de tes affaires. Voilà, occupe-toi de tes affaires. C'est mieux pour tout le monde parce que ton avis, on n'en a rien à foutre. Et il n'y a aucun règlement qui oblige. Lui, je fais un point règlement vite fait. Il y a eu une période où il y a eu cette réflexion. Que ce soit la Coupe de France pour valoriser la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Donc, il devait y avoir au moins 7 joueurs qui ont participé au dernier match de championnat, qui devaient être sur la feuille de match de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue, etc., pour ne pas balancer une des compétitions parce qu'il y avait les droits télé. Je rappelle qu'il n'y a aucune règle aujourd'hui qui impose à Luis Enrique de faire jouer, par exemple, au moins 7 joueurs qui étaient titulaires du match d'avant. Donc, arrête avec tes textos, arrête, occupe-toi de ton club, essaye de te sauver, mais ferme-la.
Jean-Baptiste, tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
Bah, moi, je me mets juste finalement à la place des autres qui luttent aussi pour le maintien. Si le président du Havre arrive à obtenir satisfaction en envoyant un texto à la suite d'un match qui ne le concerne pas, l'équité du championnat est faussée. Donc, si on raisonne par l'absurde, alors qu'on a aligné une attaque qui, comme le soulignait Gilles dans le chat, vaut plus que tout l'effectif du Havre, il y a un moment donné, il faut quand même se poser de sérieuses questions sur ce qu'on veut faire de la Ligue 1. Ce qu'on voit ici, c'est typiquement aussi une certaine mentalité française et surtout un rapport, si je suis gentil, je dis pas professionnel, sinon je dis complètement dépassé, de ce que doit être une Ligue qui veut être une Ligue européenne et une Ligue professionnelle avec des gens qualifiés. Là, ce qu'on a vu, c'est soit une tentative d'ingérence et de pression du siècle passé, soit une marque d'incompétence notoire. Mon cœur balance entre les deux et je pense qu'on peut accoler ça à un ancien président de l'OM.
Mais juste Clément, pour finir sur un truc, c'est que
Ouais.
qu'est-ce qui. Parce qu'aujourd'hui, Aubameyang, c'est le meilleur attaquant de l'OM. D'accord? Si demain, Gyasel met remplaçant contre Lorient, il dit quoi? Il dit quoi, Roussier? Il dit c'est un scandale et que vous privez du meilleur attaquant, du meilleur buteur de l'OM? Et que c'est interdit parce que Lorient est à. Il dit quoi, Roussier? Parce que t'as pas le droit de faire tourner, t'as pas le droit de mettre des joueurs titulaires, c'est des mecs qui ont des contrats pro. Non, mais moi, c'est.
Luis Enrique l'a bien rappelé. Hein. Luis Enrique l'a bien rappelé. Il a dit que c'était, il avait mis des joueurs qui étaient à sa disposition, qui font partie du groupe. Et
Évidemment.
voilà. Moi, je rappelle hein, encore une fois. Regardez ce qui se passe en Première Ligue. Il y a des matchs de décalé partout. Il y a des journées 28 qui vont jouer entre la 36 et la 37, je crois, parce qu'il y a la Coupe de la Ligue, parce qu'il y a la Coupe d'Angleterre, parce qu'il y a la Coupe d'Europe. Donc ailleurs, ça se fait pareil. Même en Espagne, il y a beaucoup, beaucoup de matchs décalés. Donc
Oui, mais juste,
personne n'aura.
non, mais juste un truc, c'est que le problème, c'est sur les deux dernières journées. Et même en Angleterre et tout, sur les deux dernières journées, il n'y a pas de changement parce que tout le monde doit jouer à la même heure. C'est pour respecter. Maintenant, il y a un truc, c'est que rappelez-vous, je le redis, c'est possible si les deux équipes ne jouent rien. Monaco, à l'époque, où ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions, ils avaient décalé leur match qui s'était déroulé entre la 37 et 38 à l'époque. Mais parce que, genre, c'était Monaco, Rennes, et que personne ne jouait plus rien, en fait. Tu vois? Il y a le contexte aussi qui fait que. Maintenant, moi, je suis d'accord. Tu as mis un règlement sur les deux dernières journées. Faut le respecter. Tu vois? C'est peut-être l'organisation du calendrier à 34 journées qui a à revoir. Tu as enlevé 4 journées, tu te retrouves quand même dans une situation galère.
Avec un mois de janvier où il y a eu deux matchs de championnat, je crois. C'était n'importe
Ben, c'est
quoi.
ça. Ben, c'est ça le problème. Ben oui.
On rappelle aussi que le Havre est en conflit décidément en ce moment avec les autorités, puisqu'il y a, je crois qu'ils sont aussi en procès sur le deal CVC. Je crois qu'ils étaient pas du tout contents de ce qui se sont passés. À la rigueur, on peut davantage le comprendre, les
Voilà.
comprendre là-dessus. Mais voilà, c'est un autre sujet. Donc, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'agitation au sein de la direction du Havre, parfois à raison, et là, en l'occurrence, plutôt à tort.
C'est un club en vente. C'est un club qui est sur le marché, concrètement. Ça joue aussi beaucoup, hein, je pense, dans la position de Roussier, hein.
Possible, possible. On va clôturer avec Clermont parce qu'on souhaitait vous parler du coach parisien. Alors, on vous en a beaucoup parlé récemment sur la gestion de l'effectif, sur la gestion du cas Mbappé. Là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je voulais en parler aussi avec Yacine et Jean-Baptiste. On l'a vu pour la première fois, je crois, avec une oreillette contre Clermont. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait son adjoint qui est Nzoé qui était en tribune. Et ça fait écho aux nacelles qu'il a installées au camp des Loges, enfin à Poissy maintenant, désormais au centre de Poissy, pour coacher son équipe avec de la hauteur, avec une prise de hauteur, et voilà, donner des consignes avec un point de vue beaucoup plus aérien. Yas, je viens vers toi parce que bon, là c'est un truc un peu d'entraîneur, un peu technique, mais c'est quoi? C'est un peu le foot moderne qui symbolise ça. C'est une manière d'appréhender différemment. En quoi? Alors, ma question, c'est en quoi ça peut être bénéfique? Et à contrario, est-ce que tu vois des inconvénients à ce système de coaching?
Alors, il y a plein de choses parce que je ferai des parallèles avec Nagelsmann et tout parce que c'est un peu aussi cette génération d'entraîneurs qui pense comme ça. Il y a déjà ce qu'il a mis en place au centre d'entraînement, à savoir qu'il y a une nacelle où tu peux voir la séance pendant la séance Donc, tu es en hauteur. Parce que tu vois toujours mieux en hauteur qu'à ras du sol, le positionnement des joueurs, les déplacements, les intervalles, les espaces, etc. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des écrans et que pratiquement en instantané, ils sont capables de revenir sur une séquence et de la diffuser à l'écran sur le terrain et dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas là, hop, regardez le positionnement, machin. Donc, en visuel. Parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que le visuel, c'est toujours plus parlant et qu'on est en plus dans une génération de l'image, du numérique, de la vidéo. Voilà, c'est des fans de Instagram, TikTok, etc. Et donc, quand tu leur envoies une vidéo, bah, c'est plus parlant que des longs discours comme nous, on avait l'habitude d'avoir à notre époque. C'est comme ça, il faut s'adapter. Et ils s'adaptent très bien. Nagelsmann le faisait déjà. Je rappelle aussi, avant de passer à l'oreillette, que Luis Enrique, il a un adjoint à côté de lui qui a une tablette pendant les matchs. Et en fait, le truc, c'est qu'il regarde aussi beaucoup des séquences, en fait, qui sont analysées par... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les outils d'analyse vidéo, vous pouvez faire des analyses vidéo, mais en instantané. Donc, vous avez le match avec 10 secondes d'écart, vous faites votre montage, vous l'envoyez au mec, enfin, vous êtes vous dans votre bureau, vous faites un montage rapidement d'une séquence en disant « Tiens, il y a ça qui ne va pas ». Vous l'envoyez en instantané sur la tablette de l'entraîneur qui est à côté de Luis Enrique. Ça veut dire que en l'espace de 1 minute 30, Luis Enrique ou son adjoint reçoit sur sa tablette une séquence de jeu qui pose problème et peut-être quelque chose à corriger. Pour revenir à l'oreillette, bah, en fait, Nagelsmann en avait parlé aussi. Il avait dit, est-ce qu'on ne va pas arriver bientôt à l'oreillette sur chaque joueur plutôt que de gueuler des consignes et de ne pas te faire entendre parfois à cause du bruit et tout, eh ben, est-ce qu'on ne va pas arriver à mettre une oreillette à chaque joueur et puis finalement discuter avec lui directement pendant le match? Peut-être que dans 15 ans, ben, on en sera là. Ce n'est pas le cas. Pour l'oreillette de Luis Enrique, oui, parce qu'il envoie quelqu'un en tribune à chaque match qui regarde le match de là-haut et qui donc analyse les comportements de son équipe, des adversaires, de plus haut. Et qui voit mieux les déplacements. Donc, il peut communiquer en temps réel. On n'est pas bien positionné, on est trop écrasé sur la ligne défensive, etc. Et donc, lui, ça peut lui permettre de réagir. La deuxième chose, c'est qu'on a vu qu'il y avait aussi les kinés, etc., qui étaient reliés. Ce qui veut dire que quand ils sont partis soigner Mukele à l'autre bout du terrain, au lieu de faire trois relais par un joueur et dire « Attention, il faut faire le changement en coach et tout », et bah, du coup, non, ça ne va pas, commotion cérébrale, protocole commotion, du coup, faut le remplacer et ça passe en direct avec Luis Enrique. Voilà, c'est aussi un gain de temps. Tout ça, c'est des petits outils qui, moi, je pense, améliorent. Au football américain, ça fait 15 ans que les entraîneurs communiquent comme ça. Vous les voyez tous, on dirait des mecs de plateforme téléphonique. Ils ont des casques, des talkie-walkie et tout. Ils sont là au bord du terrain, ça communique de partout. Au rugby, ils ont 10 ans d'avance là-dessus. T'as quoi qu'il arrive dans le staff, 2-3 mecs là-haut en tribune et parfois même les coachs, tellement ils se disent que être au bord du terrain et faire une intervention, ça a presque plus d'impact. Les mecs, le coach, il est en tribune. Et il y a Frank Hayes qu'on a parlé récemment en disant, est-ce que je ne vais pas finalement aller voir la première mi-temps en tribune pour voir plus de choses et presque pas intervenir parce que de plus en plus, les coachs se rendent compte que oui, tu peux corriger un ou deux trucs. Oui, tu peux aller booster, entre guillemets, tes joueurs sur une gueulante sur le bord du terrain, mais que ton impact, il est là, à ce moment-là du match, hein, au bord du terrain. Il est tellement minime que finalement, on va prendre de la hauteur, va voir mieux l'organisation, l'occupation du terrain. Peut-être que c'est plus intéressant. Donc voilà, et Luis Enrique, bah, il met tous ces petits trucs en place, que ce soit au centre d'entraînement, que ce soit là c'est la première fois et peut-être que c'est pas la dernière. Peut-être que c'était juste un test et que ça l'a et peut-être qu'il se dira voilà, mais moi j'aime bien les gens qui tentent des choses. Voilà. Encore une fois, personne n'a de certitude sur c'est bien, c'est pas bien. Par contre, tu le fais. Est-ce que ça a valu le coup? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'est trop de cinéma? Est-ce que c'est trop d'organisation pour rien? Et après toi tu fais ton bilan et tu te dis bah non, finalement on reste comme avant. Ou non, finalement, c'est très bien l'oreillette, on a gagné du temps. Voilà.
Je vais lire quelques commentaires, Yas, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Nico qui dit déjà, filer une oreillette à Mousse avant d'en filer une à Luis Enrique. Ok, on va y penser. Il y a Pascal Jeanne que j'embrasse, c'est mon voisin au Parc des Princes. Donc, il dit 550 en live, on va être nombreux au barbecue en fin d'année. Alors, il n'y aura pas de barbecue, mais on vous prépare quelques surprises. Alors, pour ceux qui nous écoutent de Guadeloupe ou du Canada, ça va être un peu compliqué, mais
Et vous pouvez venir.
on vous pouvez venir, bien sûr. On vous prépare quelques surprises. On vous en parlera quand ce sera officiel, évidemment. On vous remercie. Là, vous êtes quasiment 600. Donc c'est cool. Pour revenir au débat, Jean-Baptiste, est-ce que ça peut être, moi je me suis posé la question, un moyen de préparer Barcelone? Est-ce qu'on va le revoir avec Barcelone, contre Barcelone avec une oreillette, d'après toi? Je me suis dit, c'est à 3 jours de Barcelone, pourquoi lancer ça maintenant? Bon.
Alors, je ne sais pas quelles sont les règles sur les rencontres européennes. Je ne sais pas si on a le droit de communiquer comme ça avec le reste de sa team. Je ne sais pas si c'est
Si,
cadré
s'il y
par
a...
les lois.
Ouais, mais s'il n'y
Donc.
a pas de suspension. En fait, si par exemple il y avait le coach suspendu, c'est interdit d'avoir une oreillette parce qu'en fait c'est le coach qui peut communiquer. Par contre, je pense que si personne n'est suspendu, il n'y a pas d'interdiction normalement.
Moi, ce que je vois, c'est que ça me rappelle beaucoup les discussions qu'on avait eues lorsque Ancelotti avait mis en place les premiers GPS sur les maillots. Et on est ici sur une approche très techno de la performance, avec derrière des données en plein match. Et là, on est vraiment sur, tu as raison de souligner, hein, Yas, ce qu'on voit en NFL, un peu moins en NBA, mais ça s'est développé avec l'arrivée des tablettes depuis 4 saisons. Et puis, ce qu'on voit surtout beaucoup dans le vélo. C'est-à-dire être capable d'adapter la tactique avec un double point de vue. On a beaucoup d'entraîneurs qui maintenant placent leurs adjoints dans les tribunes. Quand c'est pas carrément, hein, Hayes l'avait fait justement, l'idée d'aller prendre littéralement de la hauteur. Et peut-être que pour le Barça, il y a eu une volonté de voir finalement si entre le moment où il donnait ses consignes, le moment où elles étaient appliquées, le moment où les joueurs qu'il avait choisis étaient capables de le faire. Si, il y avait un vrai retour. Moi, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir le débrief. J'espère que quelqu'un aura l'idée de lui poser la question de manière intelligente et pas en lui demandant pourquoi il avait une oreillette. Et ça va être justement un point de vue parce que je pense que dans l'aide à la prise de décision, là, ce qu'on voit, c'est un coaching staff et pas simplement un entraîneur. C'est tout un ensemble et c'est justement ça qui est intéressant. C'est la performance avec une approche vraiment la plus large possible et la plus scientifique.
Voilà, il faut aussi souligner que le PSG aujourd'hui a des installations vraiment hors du commun à Poissy. Yass, pour te dire, il a aussi fait installer des écrans géants dehors
C'est ce que
du
j'ai dit.
Saint-Etienne. C'est ce que
En
tu as
fait,
dit,
c'est
ok,
ce que j'ai dit.
excuse-moi.
Quand il corrige des séquences, il les fait directement sur le
Ouais.
terrain avec l'écran qui est au-dessus, qui est derrière le but, etc.
Ce qui est beaucoup plus parlant, ce qui est beaucoup plus parlant, voilà, c'est des outils aujourd'hui. On sait qu'à l'époque, on avait un coach, c'était Unai Emery, il utilisait beaucoup, beaucoup la vidéo. Voilà, bah, le Luis Enrique,
D'ailleurs,
voilà,
je voulais rajouter un truc, c'est que dans le vestiaire du PSG, il y a une télé où, à la mi-temps, les coachs, parfois, souvent, remettent une séquence de jeu qui leur a posé problème ou un truc qui s'est passé pendant la première mi-temps, justement, grâce au monteur vidéo qui est en tribune, etc. Ben, voilà, le temps d'arriver à la mi-temps, il y a deux, trois séquences problématiques qui sont envoyées directement sur l'écran qui est dans le vestiaire. Donc, les joueurs, ils ont, encore une fois, on est dans l'image, mais ils ont l'image tout de suite dans le vestiaire. C'est pas juste le discours du coach qui va dire, hey, les gars, c'est pas normal qu'à ce moment-là, lui, il est mal placé, machin. Les mecs, ils se rappellent plus de rien. Hop, tac, 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 trois séquences, ça dure 30 secondes et c'est, on passe à autre chose.
Merci pour ces explications, Yacine et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, t'es un fan, hein, la tour de Babel, il relève toutes tes bonnes interventions et puis
Moi, je suis
il les met dans le chat. Donc on le salue. Il est temps pour nous de passer à la dernière partie du podcast. On va quand même se projeter sur le match de mercredi contre Barcelone, avec quand même des points d'interrogation. Hein. Il y a à peu près, on peut dire qu'il y a 9 joueurs sur 11 qu'on connaît, a priori. Et il y a deux joueurs, voilà, deux points d'interrogation. C'est évidemment le poste d'arrière droit, puisqu'Hakimi est suspendu. On a quand même eu une première réponse aujourd'hui avec le forfait de Mukiele. Donc a priori, ce sera soit Zaïre Emery, soit Marquinhos, à moins qu'il y ait une surprise Carlos Soler, mais j'y crois moyennement. Et l'autre option, c'est, enfin l'autre point d'interrogation, c'est le troisième attaquant qui accompagnera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Je crois que tu lis les commentaires de Nico, JB. Alors Nico nous dit, il y a aussi une télé dans le vestiaire de l'OM, mais à la mi-temps, ils diffusent les films de Pierre Richard. Voilà, merci Nico. En fait, il aurait pu être dans le podcast et il fait le clown dans le chat. Donc, moi, je ne le
Et il
remercie
a une
pas.
super casquette du Havre. On la partagera sur les réseaux sociaux, hein, sa casquette.
Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas faire les modifs en direct parce que je l'aurais mise dans les visuels, je pense. Donc voilà, quel compo contre Barcelone, Yacine. Alors, je vais te lancer sur la compo et aussi sur l'animation du jeu parce qu'on a quand même deux équipes qui aiment avoir le ballon. On va dire quel compo et quelle animation tactique pour le PSG contre Barcelone.
Alors, la compo, moi, je miserais sur Marquinhos à arrière droit. Parce que je pense que c'est la solution la plus fiable. Parce que je pense que Beraldo Hernandez, ça a montré que c'était solide et que ça peut continuer. Parce que Luis Enrique, on lui a posé la question la semaine dernière en lui disant Marquinhos, il peut aussi, il a déjà joué au milieu. Est-ce que vous pourriez le faire jouer au milieu? Et lui-même a dit, mais il a aussi joué arrière droit. Et moi, dans ma tête, il est plus arrière droit que milieu. Bon, ça fait beaucoup. Alors après, je sais que Luis Enrique aime bien jouer avec les médias, mais ça fait quand même beaucoup de signaux. Et je pense aussi que malgré tout, ça te permet de garder Zaïre Emery au milieu. Et c'est pas rien. Sur le reste de la compo, je pense qu'on aura Nuno Mendes. Je pense qu'on aura donc Beraldo et Hernandez. En plus, Beraldo, ça lui aura permis de souffler un peu d'ailleurs. Parce qu'il a beaucoup enchaîné depuis qu'il est arrivé du Brésil. Au milieu, donc, bon, pour moi, le milieu, ça va être Vitinha, Ruiz et Zaïre Emery. Il y aura Mbappé devant. Après, il y aura Dem Alors, après, il y aura Dembélé. Mais
On sait
Dembélé,
pas
ça
où.
dépendra. Là, si on ne sait pas où. Et puis, moi, je pense qu'il y a un troisième poste qui peut jouer entre. Alors, franchement, avec un peu plus de temps de jeu et moins de blessures cette saison, j'aurais mis Asensio dans la balance. Je pense qu'il ne démarrera pas, mais je pense qu'avec du temps de jeu, il aurait démarré. La troisième place, elle va jouer en fait entre Lee, pour moi, entre Lee, Ramos et Barcola. Parce qu'avec Barcola, t'as la possibilité de le refaire jouer à droite. Et tu vois, il y en a qui vont dire oui, il revient de blessure. Sauf que Barcola, il a manqué à peu près une dizaine de jours. Donc en termes de rythme, il a pas perdu. Hein. C'est pas 3 semaines de claquage et 10 jours pour reprendre. Il a raté de sa blessure jusqu'à sa reprise d'entraînement une dizaine de jours. Donc en termes de rythme, il n'y a pas de problème. Il est sur les bases qu'il était avant. Et puis de toute façon, Barcola, il fait jamais 90 minutes. Donc. Ça peut être une possibilité. La deuxième, c'est Lee, parce que Lee, en jouant à droite, il peut rentrer sur son pied gauche. Ça donne deux joueurs en fait excentrés, Mbappé et Lee, sur leur faux pied en pouvant rentrer et Dembélé en 10 faux 9, je sais même plus comment faut l'appeler là, un peu libre dans l'axe. L'autre possibilité, c'est de mettre Ramos et de jouer dans un classique 4-3-3 avec Dembélé à droite, Mbappé à gauche, Ramos dans l'axe, ton milieu à 3 et une organisation tout à fait classique. L'avantage de cette animation-là, c'est que Mbappé ne serait pas cantonné à un rôle d'ailier gauche parce que avec Nuno Mendes de son côté, il va pouvoir rentrer et libérer le couloir. Se rapprocher de Ramos, parce qu'on sait que Ramos, avec Mbappé, malgré tout, Mbappé, il aime bien avoir un neuf avec lui, et Ramos, il sait faire le point de fixation. Que, en mettant Marquinhos à droite et Nuno Mendes plus offensif, ça lui permet d'équilibrer avec les trois défenseurs. Ce qu'il faisait d'habitude, avant que Nuno Mendes revienne, avec Hakimi qui sortait, et donc Lucas Hernandez qui sortait moins de l'autre côté. Donc, en fait, il y a plein de principes de jeu qui se ressemblent dans cette compo, dans cette compo et cette animation. Et en plus, tu as un joueur qui est capable de finir comme Ramos. Moi, je miserais sur Ramos parce que je pense qu'il va pas refaire la même animation qu'il a fait contre la Real Sociedad.
Jean-Baptiste, je viens vers toi pour tes pronostics et après je donnerai les miens.
Non, je suis assez d'accord avec Yacine. Ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir comment il va utiliser ses remplaçants en fonction du match aussi, qui va mettre sur le banc. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien voir Ramos titulaire. J'aurais adoré voir Asensio aussi. Il y en a un dont je me serais bien débarrassé, mais on n'a pas trop le choix, c'est Fabián Ruiz, parce que je pense que pour ce type de match, on va avoir aussi ses limites. mais on n'a pas
le problème, c'est que tu vas le remplacer par qui?
Bah voilà, c'est ça, t'as pas d'alternative. Donc tu vas le garder.
Et tu peux mettre Lee, ouais, tu peux mettre.
Moi j'avais pensé à Lee.
En termes d'athlétique, c'est très limité aussi.
Bah, ça va voler en l'air, quoi. Donc c'est une vraie question. Maintenant, défensivement, je suis d'accord. Je pense que si tu as à assurer, bah, tu vas mettre Marquinhos. Parce que de toute façon, même s'il y a une blessure, n'importe quoi, il te fera le job. Et puis les autres, on verra aussi comment il va faire jouer Dembélé. Il y en a un dont on parle pas et qui sera sur le banc, c'est Kolo Muani, c'est sûr. Après, moi, Barcola, je suis moins... je sais pas. Je le vois plus... Je le vois plus sur le banc, moi, mais ça on aura l'occasion de voir. En termes d'opposition, toi, t'en penses quoi, Yacine? Tu penses que ça va... tu le vois comment, toi, ce premier match?
Franchement, je pense que il y a deux éléments. C'est que, un, le Barça, c'est pas le Barça de Xavi. C'est pas le Barça de Guardiola, en termes de qualité de jeu. Alors, attention, ils se sont bien repris depuis quelques semaines, malgré tout. Bon, là, ils n'ont pas joué depuis 10 jours, alors ils peuvent aussi manquer de rythme. Mais ils sont bien repris depuis quelques semaines, avec notamment l'intégration des jeunes. Donc ça joue un peu plus et tout. Maintenant, le Barça de Xavi, et notamment l'année dernière, par exemple, ils ont été capables de faire des matchs très fermés, très défensifs. Moi, je ne vois pas le Barça venir jouer absolument pour plein de raisons. La première, c'est que Luis Enrique connaît le Barça. La deuxième, c'est qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur, donc il n'y a aucune obligation de venir marquer au Parc. Que le PSG a des transitions qui peuvent faire très très mal et que Xavi le sait. Donc moi je vois vraiment, même si c'est un PSG-Barça et que souvent ça a été des matchs plutôt spectaculaires, je pense que pour une fois ça va pas être un match spectaculaire.
Je pense que Paris aura pour rebondir, je pense que Paris aura plutôt le ballon. Pareil, j'en parlais avec des collègues et je pense que le Barça n'a pas intérêt à s'exposer au match aller et à conserver un score qui peut lui être favorable ou pas trop défavorable en tout cas.
Mais c'est surtout que t'as plus besoin de marquer à l'extérieur, donc ouais, ça change tout.
Ça change la donne. Et sur la compo, franchement, moi j'ai aucune certitude, hein, je vous le dis, ça peut être tout, même arrière droit ou pas arrière droit. Il peut tenter un Warren, il peut tenter même Solaire, j'y crois moins, mais limite ça me choquerait même pas qu'il le mette. En revanche, je suis un peu plus sceptique sur Lee, attaquant droit. Pourquoi? Parce que à ce poste-là, il aime bien revenir sur son pied gauche et ça voudrait dire qu'on n'est pas de neuf. En fait, on a vu la différence quand Lee est attaquant droit et quand il y a un neuf, il y a une vraie utilité parce qu'il centre, il peut centrer, il peut faire des passes longues, etc. Et quand il n'y a pas de neuf, en fait, il se retrouve embêté parce qu'il a beaucoup moins de solutions à ce poste-là. Voilà. Donc moi, je mettrais une grosse pièce. En revanche, je mettrais une grosse pièce sur Barcola. Je pense que c'est Barcola qui va jouer attaquant droit avec Dembélé en faux neuf et Mbappé. En milieu, il n'y aura pas de surprise. Et arrière droit, je ne sais pas encore, je sais pas pourquoi, je sens qu'il nous prépare un truc.
Pas d'arrière droit. Bon,
là, je ne sais pas, ouais, vraiment, il y a un truc que je ne sais pas. Je ne sens pas le Marquinhos à droite là. Je ne sais pas pourquoi il va y avoir un truc différent, je pense. Mais c'est mon avis, c'est mon ressenti perso. Je ne me suis pas trop trompé en pronostic de compo pour l'instant.
Moi, j'ai une question. J'avais une question, les gars, pour vous. On a vu le nombre de joueurs Barcelone averti. Le match retour, il arrive vite. Vous pensez que ça rentre en ligne de compte dans la tête de Xavi ou c'est quelque chose
qui
l'action? Ouais, il y a 7 joueurs qui sont susceptibles de manquer le retour s'ils se prennent un jaune. 7, c'est
beaucoup. Non, quand même, en fait, ça rentre. Les joueurs, ils l'ont en tête. Maintenant, ça rentre pas dans la tête du coach parce que tu peux pas prendre en compte ça. Et surtout, la deuxième chose, c'est que malgré tout, c'est quart de finale. Et à la fin des quarts de finale, les cartons sont effacés. Donc, moi, je pense que ça ne rentre pas en ligne de compte parce que si tu commences à dire, lui, il a un jaune, je ne peux pas s'il prend un jaune, ah, t'es mort. Par contre, dans ton coaching de match en Ligue des Champions, ça joue plus parce qu'en championnat, tu peux te permettre d'être à 10. En Ligue des Champions, moins. Mais par contre, un joueur qui prend un carton rapidement, ouais, là, ça peut jouer. Mais sur ta compo, ça ne peut pas jouer. Si tu penses que ta meilleure équipe, c'est avec les 7 joueurs qui ont un jaune, bah, tu t'alignes les 7 joueurs qui ont un jaune.
Et côté Barça, Yas, il y a aussi des incertitudes pardon, sur la compo. Devant, voilà, il y a trois postes pour quatre, un peu, avec Yamal, Rafinha, Joao Félix et Lewandowski. En milieu, pareil, Christensen, à mon avis, jouera, hein, parce que il apporte une valeur un peu défensive en milieu de terrain. À ses côtés, il y aura Gundogan, qui sera le troisième. On ne sait pas trop. Toi, tu as une petite idée là-dessus?
Ouais, je pense que ce sera pas De Jong parce qu'il revient de blessure et que ça va être ces matchs-là aussi ça les retours de blessure les vrais retours de blessure je parle pas à la Barcola où c'est 10 jours bah, bien sûr que l'intensité qu'il y a la tension qu'il y a dans un match de Ligue des Champions revenir directement titulaire comme De Jong je le vois pas. Donc je pense que voilà Sergio Roberto aujourd'hui qui bon, c'est pas ma came de foot, mais voilà, il fait ses matchs, il est là au club, c'est un historique, et c'est un soldat. Voilà, moi je pense que tu vas partir là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que oui, Christensen, ça va être sa base, parce que depuis quelques semaines, en dehors des jeunes comme Yamal et tout qui sont revenus, Christensen, il a apporté quand même une assise défensive au milieu que le Barça n'avait plus. Et donc, bah aujourd'hui, c'est ce qui lui permet de retrouver de la solidité. Et c'est pour ça que je disais que le Barça de Xavi, c'est pas ça, le Barça de Guardiola, même si le Barça de Guardiola avait de la solidité, il construisait sa solidité sur le contre-pressing très haut. Xavi, il a construit sa solidité aussi, enfin plutôt, sur le milieu de terrain, sur de la défense, sur un bloc moins haut et plus compact. Enfin, c'est différent.
JB, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou je peux conclure l'émission?
Ils t'en prient, Clément,
Ah si,
vas-y, vas-y.
je vais quand même vous demander votre pronostic, j'aime pas trop le faire, mais là je me lance. Jean-Baptiste, ton prono.
Oh, je suis archi mauvais pour ça. Moi, je vais dire victoire de Paris, mais je suis ultra mauvais. Généralement, il se passe l'inverse. Donc, les victoires de Paris, parce que j'y crois, je vais regarder le match pour ça.
Toi,
Et
Yass?
like, si, une chose. Un pronostic. On doit avoir plus de likes, là. Plus de likes.
Ah,
Sinon, ça va juste
on est plus de
être contre
600,
nous.
on est plus de 600 en live là, c'est pas mal. Yas, t'as un
On
prono ou
like.
pas?
Moi, je pense à une victoire de Paris, mais 1-0, un truc comme ça.
Ouais, j'allais dire 1-0 pour Paris aussi.
Ouais.
Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Quelques petites choses. On est plus de 800 sur TikTok. Donc allez nous suivre ceux qui ont TikTok et qui ne nous suivent pas encore. C'est Paris United 75. À 1000, on pourra vous faire des petits lives en direct du Parc des Princes, à la mi-temps des matchs, des petits lives de 10-15 minutes. C'est important pour nous, ça vous offrira de nouveaux contenus aussi. Donc ça c'est cool, allez-y ceux qui ont TikTok. Merci à la dizaine de personnes qui se sont abonnées pendant l'émission. On a pris plus 10-15 membres pendant le podcast, donc ça c'est vraiment cool. Demain, midi, pour les membres, rendez-vous avec Alain Roche pour l'interview. Donc Alain Roche, pour les plus jeunes, c'est vainqueur de la Coupe d'Europe avec le PSG. C'est 5 demi-finales de Coupe d'Europe avec le PSG. C'est 7 trophées remportés. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer. Il a été directeur sportif aussi dans une période un peu plus compliquée dans les années 2000. Il s'est beaucoup attardé dessus. Il a un peu expliqué comment ça s'est passé, etc. Vous allez voir, vous allez adorer. Je vois Jean-Baptiste qui lève la main parce qu'il va vous parler de LinkedIn, je crois.
Mais tiens, attends, je réponds à une question juste.
Ouais.
Je serai pas au parc parce qu'on n'a pas eu les accréditations. Et Alain Roche, avec la charnière avec Ricardo, c'était quelque chose.
Et un mec super sympa, mais voilà. JB, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, tu disais justement que PU était sur TikTok. PU est sur LinkedIn aussi. Ça veut dire qu'au boulot, vous pouvez passer au-delà des filtres et regarder les lives en passant par LinkedIn. Inscrivez-vous sur LinkedIn parce que c'est une autre manière aussi pour nous de communiquer. Et en l'occurrence, on est présent partout. On s'investit énormément pour vous et on est ravis du soutien que vous apportez. Vous êtes déjà 600 là. Merci.
Et
Merci.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Alain Roche, c'est une semaine. Ça va être riche hein, sur la chaîne YouTube parce qu'on sera en débrief jeudi pour le match aller. Vendredi, il y aura la minute coach de Yacine qui vous fera un petit point tactique, le retour de la minute coach entre le match aller et le match retour. Donc voilà. Et puis on fera sûrement un podcast en début de semaine prochaine pour l'avant-match retour à Barcelone. Je crois qu'on n'y sera pas. Moi, j'y serai pas à Barcelone, mais je crois que personne n'a eu de place dans l'équipe. Donc voilà, merci encore pour vos abonnements. Ça nous permet de pérenniser un studio, de vous proposer des émissions supplémentaires, des contenus supplémentaires. Voilà, on est très, très content d'avoir fait notre retour et on est super content de vos retours à vous parce que c'est très positif. Pour les un peu moins positifs, on essaye de s'améliorer, mais voilà, vous êtes vraiment au top, vous êtes toujours très fidèles et nous, on est super contents, ça nous motive à organiser plein, plein de choses pour vous. Donc, y a plein de surprises qui vont arriver. Voilà, on vous dit bon match contre Barcelone. Merci encore pour votre soutien et puis on se donne rendez-vous jeudi. Et évidemment, allez Paris, parce que c'est un match de Coupe d'Europe, alors allez Paris. Salut à tous.
Ciao.
À tous.